Bonjour. Vous allez bien? Chaudement? Partagez cette chaleur avec moi. Ce matin, je suis content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'ai choisi un texte qui m'a fait penser à une situation de vie que j'ai déjà pu vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a des moments donnés dans la vie où vous marchez, vous avez un objectif, vous voulez aller à la Migros, par exemple. Dans un supermarché, puis d'un coup vous dites ok, je vais à la Migros, je marche, et puis d'un coup je pars dans mes pensées, je relève la tête, et puis en fait je suis pas du tout à la Migros, je suis complètement ailleurs, soit chez moi, soit je me retrouve devant ailleurs. Et d'un coup je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai atterri là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi ça m'est déjà arrivé, hein. Si ça vous est jamais arrivé, peut-être que je suis quelqu'un de bizarre. Non mais voilà. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à un moment donné, ça peut être aussi un signe que. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passait, hein. En fait, c'est le cerveau, quand il arrive dans un endroit ou un chemin connu, il se met en mode automatique. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, c'est un automatisme. Parce qu'en fait, il a besoin de temps pour réfléchir à autre chose. Voilà. Donc, si ça vous arrive, peut-être que vous avez plein de choses à penser ou à réfléchir. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, même de vie, où j'étais très pris. Et puis en fait, j'avais des automatismes et ça se crée comme des absences des fois. Alors c'est devenu à un moment donné même presque dangereux parce qu'il y a des moments, il y a plusieurs heures en fait qui passaient et j'en étais pas conscient. Et puis ça m'est arrivé à un moment donné au bureau ou dans différents endroits. Je m'assois à mon bureau en tant que dessinateur en bâtiment, devant mon écran, je vais commencer à travailler, je vois l'heure, hein, il est 6h30. Oui, c'est la vraie heure, hein, du matin, 6h30 du matin. Je commence à travailler et en fait, d'un coup, je ne sais pas, mon cerveau switch, je reprends mes esprits, il est 10h30. Et mon café est là et je n'ai pas bougé. Et en fait, c'est ces automatismes-là. Ça peut être du coup un signe de surcharge aussi. Hein, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous parler de ça, c'est cette idée qu'il y a des fois où en fait, il y a comme une dissociation entre là où moi j'aimerais aller ou là où finalement mon corps m'amène. Hein, je veux aller à la Migros, je me retrouve chez moi, je veux passer par un chemin spécifique, bah, je prends l'autre chemin que j'ai l'habitude de prendre. Puis d'un coup, il y a un peu comme une tension qui se crée. Cet exemple, moi, me parle beaucoup par rapport au texte qu'on va aborder, au sujet qu'on va aborder ce matin, qui parle d'une tension que c'est l'apôtre Paul qui nous parle de ça dans sa lettre qu'il adresse à l'église de Rome. Donc c'est une lettre où Paul va développer ce qu'est l'évangile pour lui. Hein, en 16 chapitres, il la structure en quatre grandes parties. Et puis le texte que j'aimerais qu'on puisse aborder ce matin, c'est dans l'idée que l'évangile crée une nouvelle humanité. Donc pour ceux qui veulent le situer, c'est une section, c'est du chapitre 5 à 8. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien lire la Bible et qui trouvent ça intéressant, le fait de comprendre la structure des livres bibliques, en fait, ça aide à comprendre la pensée de l'auteur. Là, dans Romains, il structure son livre en quatre parties, quatre sections différentes, parce qu'il veut montrer que l'évangile change les choses. Et cette section 5 à 8, Paul veut nous montrer que l'évangile crée une nouvelle humanité. Et dans les chapitres 5 à 8, toujours, il y a l'ancien Adam, l'homme pécheur, et il y a le nouvel Adam, Jésus-Christ. Et j'étais anciennement en Adam, en acceptant Jésus, je suis en Christ. Et il y a ce changement. Et il dit, il y a vraiment une nouvelle humanité qui se crée en Christ. Et il parle de ça, mais il parle aussi d'une tension, comme j'ai dit, qui se situe entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais vraiment. Ce que j'aimerais vivre et ce que je vis vraiment. Et c'est ce texte qu'on va voir de Romains 7, verset 15, au Romains 8, verset 4. Je ne vais pas tout vous lire d'un coup. On va prendre partie après partie et on va voir ce que Paul nous dit. Donc, je commence. Donc, je vous lis Romains 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne sais pas
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul commence, Paul commence avec un constat. Le constat est le suivant, c'est qu'il reconnaît que la loi est quelque chose de bonne, que Dieu nous a donné quelque chose de bon qui nous permet de revenir à lui et d'avoir une relation avec lui, et que lorsque j'accepte Jésus et que je veux le suivre, il parle d'un être intérieur, ma volonté, moi, j'ai envie de le suivre, j'ai accepté Jésus, je reconnais que j'ai besoin de lui, et il dit, eh, il y a un souci, c'est que j'ai en moi, je sais ce qui est bon de faire, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette phrase, moi je me reconnais dans cette phrase, je sais ce qui est bon, mais je n'y arrive pas. Je sais que Dieu m'a dit, la Bible me dit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine, c'est une promesse que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Je sais que c'est ça qui est bon pour moi, mais je n'arrive pas à le faire. Je m'inquiète quand même pour le lendemain. Dieu me dit, je vais pourvoir à tes besoins. Oui, mais je m'inquiète quand même un petit peu pour mes besoins. Surtout quand je me dis, mais comment ça va se faire? Dieu me dit, je suis la source de vie, viens vers moi, viens te ressourcer en moi. Et je dis oui, et dès le moment où je vois une autre source que j'avais l'habitude de prendre avant, elle est là et elle m'attire. Et finalement, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour moi, mais je n'y arrive pas. Et en fait, Paul, il dit, mais je constate ça, et ça, et y a une tension, il y a une lutte en moi. Peu importe ce que je fais, finalement, je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Je n'arrive pas à me détacher, finalement. On pourrait dire aujourd'hui, peut-être, j'arrive pas à me détacher de mes dépendants, j'arrive pas à me détacher de certaines relations, j'arrive pas à aimer. Jésus nous dit, aimez-vous, aimez tout le monde, aimez-vous les uns les autres. Oui, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les personnes que vous avez le plus de mal à aimer? Ne répondez pas. Moi, j'ai fait le constat. Alors, et je pense qu'une catégorie de personnes que des fois j'ai de la peine à aimer, en toute sincérité, c'est ces personnes qui sont à la gare et qui sont devant avec un stand et qui sont là pour venir nous annoncer une cause, qui plaident pour une cause et puis qui vient me déranger dans ma journée où finalement j'avais pas le temps, j'étais stressé. Et lui, il vient naturellement, gentiment, il me dit « T'as pas 2 minutes pour sauver les animaux ?» Et en fait, il me frustre parce que tu dis « Mais c'est important, mais j'ai pas le temps, non !» Et c'est frustrant parce que c'est son devoir, travail, de venir vers moi, de me montrer, de m'expliquer les choses. Et moi, il faut que je l'aime. Alors qu'il me colle, alors qu'il me dit non, 2 minutes, et puis finalement, je vais signer pour une année de don, alors que je n'ai pas d'argent. Et tu dis, mais non, mais comment je fais pour l'aimer, lui? Finalement, Dieu me dit, aime tout le monde, et je vois que ma réalité, j'ai de la peine à l'aimer, lui. La personne, pas la personne, hein, mais ce qu'il fait. Donc finalement, quand moi, je réalise ça, je lui dis bonjour, merci. Merci pour ce que vous faites. Désolé, je n'ai pas le temps et je repars. Mais ça, c'est quelque chose, voilà. Finalement, le constat, c'est qu'en moi, même si Dieu me dit fais ce qui est juste, ou j'ai envie de faire ce qui est juste, j'y arrive pas. Et Paul va plus loin encore. On continue dans les versets, du coup, c'est les versets 20 à 21 à 25. Il va clarifier, il va aller encore plus loin dans pourquoi, en fait, j'arrive pas à faire ce que Dieu me demande de faire. Donc je continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Paul va et explique qu'il découvre en lui la loi du péché. Il découvre qu'en lui, il y a quelque chose, il y a une loi. Et puis, je trouve intéressant qu'il utilise ce mot « loi ». C'est différent de la loi de Dieu qui est un règlement, des consignes ou des choses à faire ou à ne pas faire pour rentrer en relation avec Dieu. Là, moi, je le vois comme la loi du péché, c'est comme une loi naturelle, comme par exemple la loi de la gravité. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle la loi de la gravité une loi? Parce qu'elle ne change pas. C'est une loi parce que finalement, la loi de gravité, peu importe ce que je veux, peu importe ce que je fais, peu importe ma volonté, elle reste active. C'est la loi de la gravité. J'ai beau vouloir dire non, bah la loi, elle reste là. Hein. Et pour bien illustrer ça, parce que Paul explique, j'ai la volonté, si je reviens, hein, il parle de sa volonté de faire le bien, mais il dit, ma volonté ne suffit pas à contrer cette loi du péché. Et je vais vous donner un exemple. J'ai pris un objet. Alors, je fais du fitness depuis quelques temps, donc j'ai du poids. Je sais, ça ne se voit pas énormément. Mais... Alors, la loi de la gravité, elle dit que tout objet ou tout corps qui va être dans les airs, à un moment donné, va tomber. Hein. C'est vraiment cette gravité. Et puis là, je vais vous illustrer ça très simplement. J'ai la volonté, très fortement, de tenir ce poids tendu de bras pendant, en tout cas, 2 minutes. Je me suis dit, j'ai pris le poids et j'ai mis 8 kilos parce que j'ai essayé avec un crayon, puis je me suis dit que vous n'aviez pas 3 heures à attendre que mon bras commence à descendre. Donc voilà. Donc ma volonté, c'est ça. Donc on va voir. Voilà, hein, on soulève, on sent tout de suite que la volonté, elle a pris un coup. En fait, et puis c'est un exemple que j'ai pu voir, je trouve intéressant, puis à chaque fois que je le fais, parce que je l'ai fait une ou deux fois, je lève mon poids, et à chaque fois dans mon esprit, je me dis, mais pourquoi tu prends cet exemple-là, Francesco? Tu pourrais faire autre chose que ça. Puis là, je le vois, bah, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mon bras qui tremble beaucoup, j'essaie de parler pour penser à autre chose. Et puis finalement, que je le veuille ou non, je tremble, que je le veuille ou non, en fait, je ne peux pas tenir 2 minutes. Je ne peux pas tenir 2 minutes et ce n'est pas l'idée que ce soit 8 kilos et que ça fasse que c'est ça un poids. À chaque fois, j'oublie que du coup, j'ai le contre-coup après. Voilà. Et puis du coup, en fait, face à cette loi, peu importe ce que je veux faire, peu importe la volonté que j'ai, peu importe la volonté d'acier que j'ai, je peux rien faire contre cette loi. Cette loi reste là. Et c'est ce que Paul dit, il découvre en lui une loi, la loi du péché qui fait que peu importe ce que j'ai vraiment envie de faire, peu importe le maximum de volonté que j'ai à faire le bien, j'y arrive pas. Parce qu'il y a une loi et je suis soumis à cette loi. Mais il y a une bonne nouvelle, les amis, il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que il dit qu'il trouve en Christ, en fait, une solution. Et c'est Romains 8, les versets 1 à 4. Et il continue et il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. » Paul nous dit que par le sacrifice de Jésus, en fait, c'est que la liberté, c'est que je change de loi. Je ne suis plus sous la loi du péché, mais je suis sous la loi de l'esprit. Et comment je fais ça? Non pas par ma volonté, les amis, parce que ma volonté ne peut rien faire, c'est par le fait que je capitule devant Christ. C'est dire, Jésus, je capitule, tu as fait ce sacrifice. Pour moi, c'est par toi que je peux changer de nature, je peux changer de loi, et c'est par l'abandon du combat que j'arrive à combattre. Un paradoxe biblique. C'est par finalement plier le genou à terre et dire « j'ai besoin de toi, Jésus » que finalement cette loi du péché cesse et que c'est la loi de l'esprit de vie qui vient régir ma vie à moi. Et c'est vraiment cette idée qu'on peut voir, c'est que Dieu nous appelle à dire « je combats pour vous, mais vous, tenez-vous, soyez présents ». C'est un autre verset, c'est dans une autre histoire, mais dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs fois Dieu dire à son peuple, il y a un combat. Maintenant, allez-y, tenez-vous droit, résistez et je combattrai pour vous. Et c'est cette idée-là que Paul nous demande à vivre. C'est je vois ma vie, je vois ce que j'aimerais faire et finalement je me tiens présent dans ma vie. Je ne me désolidarise pas de ce que je fais en disant c'est plus moi. Je fais, je suis conscient, mais je ne dis plus par ma volonté, mais par toi, Jésus. Et cette loi, finalement, elle vient et elle change, et c'est cette loi de l'esprit. Et il y a toujours ces... Finalement, on voit, hein, et puis c'est le début du chapitre 7, où finalement, Paul nous dit, c'est comme si, à l'époque, nous étions... Il prend cette image du couple avec un mari et une femme, et il dit, voilà, nous étions mariés au péché. Et il dit, et en fait, cette loi du mariage, elle reste valable jusqu'à la mort. Et il dit, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes morts en Christ par un acte de baptême, par le fait d'avoir accepté Jésus sur ma vie. Je suis mort et je suis de nouveau, j'ai ressuscité en Christ et je suis marié à Christ. Et vraiment, c'est pour bien souligner ce changement qu'il y a entre la loi du péché et la loi de l'esprit. Alors aujourd'hui, et puis moi je pense qu'on en est conscient, mais j'en suis conscient, de juste dire « Seigneur, je m'abandonne à toi, viens, remplis-moi, je change de loi. » Mais finalement, le péché et les choses qui viennent, il y a toujours cette tension qui reste là. Encore aujourd'hui, et tant qu'on est sur cette terre et dans cette vie, jusqu'à la fin, il y aura une tension. Comment faire pour rester quelque part, demeurer en Christ? Trois choses que moi j'aimerais nous laisser. C'est que la première des choses, c'est qu'on parle de relation. Paul parle, et on parle de relation, c'est de vivre une relation avec Dieu. Prier, c'est vraiment une des clés que moi j'aime le plus, une des plus simples et une des plus compliquées à appliquer, c'est prier. Simplement avoir une relation avec Dieu au travers de la prière. Et ça, c'est une des choses, par exemple, hein, que j'aimerais faire et que j'arrive pas bien à faire. Je me dis, j'aimerais prier tous les jours, remettre toute situation, puis j'arrive à le faire, et puis il y a des périodes où d'un coup, la prière, c'est plus mon réflexe, c'est la roue de secours. C'est quand j'ai tout essayé, d'un coup, je me dis, tiens, je n'ai pas prié, en fait, encore. Et c'est de se dire ça. Mais en fait, c'est ces trois actes qui me permettent de demeurer en Christ, c'est la prière, on parle de repentance, de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi, cette repentance. Et le troisième, c'est être rempli de l'esprit. Donc, du coup, ça fait trois R, hein, si vous voulez encore... Et être rempli de l'esprit, moi, c'est ce que je trouve intéressant encore, c'est que dans cette loi, la loi de l'esprit, c'est ce qui nous remplit, qui nous conduit. De quoi êtes-vous rempli ce matin? Parce que finalement, dans d'autres passages de la Bible, on voit que, un des premiers passages dans les Actes, hein, Paul parle, et puis les gens disent, cet homme est rempli de vin. C'est pour ça qu'il parle comme ça, c'est pour ça qu'il fait ça comme ça, parce qu'en fait, les gens sont conscients que si je suis rempli de vin, je vais agir comme quelqu'un dessous. Si je suis rempli de colère, je vais agir comme étant quelqu'un de colérique, énervé. Et cette question, c'est de quoi suis-je rempli? Cette question-là est dire, Seigneur, je suis rempli, et je peux être rempli de fatigue, d'énervement, d'amertume, de souffrance, parce que la vie peut nous amener à être rempli d'autres choses, et simplement de déposer ça à Jésus et dire, Saint-Esprit, viens toi me remplir. Viens toi me remplir de ta présence. Parce que finalement, le but de ma vie est de demeurer en Christ en toutes circonstances. Dit autrement, c'est que le but de ma vie, ce n'est pas de ne pas pécher, c'est de demeurer en Christ. Mon objectif de vie, c'est de demeurer en lui, peu importe ce qui se passe. Et cet objectif, c'est ça que Dieu nous appelle à vivre, c'est de demeurer tout au long de notre vie, proche de lui, peu importe ce qu'on vit. Je vais simplement terminer par prier. J'invite l'équipe Louange à revenir. On va pouvoir continuer et peut-être répondre à ce qu'on a pu entendre ce matin par la louange. J'aimerais simplement terminer par la prière. Seigneur, moi je veux te dire que ce matin, on ne peut rien sans toi. Et c'est vrai que face à cette loi du péché, face à notre nature, on peut rien, notre volonté ne suffit pas à simplement changer les choses, à être une personne selon ton cœur. Et on veut reconnaître que c'est par ton sacrifice à la croix que tu nous rends juste, que tu nous rends justifiables à tes yeux. Et je te remercie, Jésus, parce que c'est seulement ton sacrifice à la croix qui fait la différence. Ni ma volonté, ni ce que je peux faire ou ne pas faire, mais c'est ton sacrifice qui permet et qui me rend juste devant toi. Et je te demande, Jésus, que tu puisses nous aider à rester proche de toi, à demeurer en toi, en toutes circonstances. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et je te prie qu'on puisse simplement, on veut te donner tout ce qui nous habite et que tu remplisses encore notre être de ton Esprit Saint et qu'on puisse être conduit par lui. Amen.